Bonsoir à tous. Je luttais-tu contre les finales au hockey? Alors, désolé pour le retard. Disons qu'on a eu un téléphone cet après-midi, puis on dirait qu'on a des fois des téléphones qui font qu'on perd la carte. À un moment donné, il se dit, ben là, ma femme elle me dit, je vais préparer le souper. J'ai envoyé mon PowerPoint pour corriger Eric. Sa femme elle répond, elle dit, tu prêches pas à soi? Elle dit, oui, je ne passerai pas long. Il était 6h15, je pensais qu'il était 5h15. Alors, c'est ma journée, disons qu'elle a passé vite. Mais je vous promets, je n'ai pas dépassé 215 km à l'heure pour arriver. Je vous ai mis comme fond de PowerPoint deux personnes déguisées en habits d'arts martiaux qui se font face et qui se préparent à faire un combat. Il y a des sujets plus faciles que d'autres à apporter, d'autres plus difficiles. Et aujourd'hui, c'est difficile, pas parce que c'est nécessairement compliqué à comprendre, mais c'est difficile parce que celui qui vous parle n'est pas différent de vous. Et lutter contre le péché, bien, c'est quelque chose que, quand on rentre dans ce sujet-là, on devient rapidement face à notre propre péché, puis à la culpabilité, puis à la honte et à tout le reste. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, et on va regarder un verset dans Romains chapitre 8, verset 15, que je vous invite à tourner. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Sommes-nous libres? Et si oui, de quoi? Et dans notre société, le débat sur la liberté est excessivement important. La première loi qui régit la Charte des droits et libertés, c'est la première. Nous sommes tous libres, et de là découle la liberté de religion et de tout le reste. Mais la liberté, c'est pas un sujet qui est nouveau. Et même que, je vous dirais que dans les milieux évangéliques, résident les plus grands débats sur la liberté. C'est pas dans le monde, c'est dans le milieu évangélique. Et le débat ne date pas d'hier, et c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais ce qui fait que les chrétiens aussi, on doit s'interroger sur notre liberté. Avez-vous déjà quelqu'un qui vous a présenté des questions dans le genre « Pourquoi est-ce que vous recherchez la sainteté? Pourquoi s'abstenir avant le mariage? Pourquoi lire la Bible? Pourquoi évangéliser? Pourquoi faire toutes ces choses? Pourquoi pas blasphémer? Ou pourquoi pas prendre de la drogue, prendre de la bière? Pourquoi prier? Pourquoi? Et la liste continue. » Pourquoi s'abstenir? Et finalement, la sainteté, c'est justement pas ça, une entrave à ma liberté, rechercher la sainteté. Et qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Et aujourd'hui, j'ai simplement, on va complexifier un petit peu la chose, mais j'ai deux choses à vous parler. Premièrement, c'est que l'Esprit de Dieu nous rend sensibles au péché, et ensuite que l'Esprit de Dieu nous attire à lui. Et commençons par le premier. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il faut le dire tout de suite, on ne peut pas dissocier ce verset de tout ce qui le précède, parce qu'il y a quand même 8 chapitres et 14 versets qui le précèdent. Et évidemment, je veux discuter de deux des rôles de l'esprit dans le combat contre le péché. Et je n'ai pas l'intention de tout couvrir ce que le Saint-Esprit fait, parce que pendant 3 chapitres au moins, il nous parle de ça. Et je vais prendre seulement 2 aspects de ça. Mais ce qu'il précède dans les chapitres précédents, surtout, on voit l'Évangile dans les 3 premiers chapitres où tout le monde est coupable. Et au chapitre 5, 6, 7 et 8, on rentre dans cette section de la vie chrétienne. Et particulièrement au chapitre 6, il nous introduit au combat chrétien et à notre lutte contre le péché. Et particulièrement, un des thèmes qui revient, c'est ce mot esclavage, servitude, livré, qui revient à au moins 5 reprises, et juste au chapitre 6. Et au chapitre 7, il reprend le combat pour dire qu'il finalement il vit des choses qu'il veut pas faire et il les fait et ce qu'il veut faire, il est pas capable de le faire. Et puis là, il y a tout ce combat du chrétien qui vit. Et au chapitre 8 vient le rôle de l'Esprit et l'assurance qu'on peut avoir dans ce combat. Mais réfléchissons un peu sur les façons qu'on est esclave du péché. Le péché nous rend esclaves d'au moins deux façons, comme qu'on voit dans les chapitres qui le précèdent. D'ailleurs, quand il nous parle d'esclavage, ce qui est rendu clair dans le chapitre 6, verset 17, par exemple, c'est que, mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du péché, c'est de ça que nous sommes esclaves. Et le péché nous rend esclaves d'au moins deux façons. Premièrement, c'est que le péché produit en nous des désirs qui nous rendent esclaves, des désirs qui nous contraignent. C'est que le péché fait en sorte qu'on prend n'importe quoi et qu'on le fait plus important que Jésus. N'importe quoi. Et ça produit des désirs. Par exemple, on voit au chapitre 7, verset 8, « Et le péché, profitant de l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. » Verset 11, « Car le péché, profitant de l'occasion, me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. » Verset 13, « Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non, mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que, par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Il produit en nous des désirs. Et c'est quoi le péché? Ben, dans le fond, Romains chapitre 1 répond à cette question. C'est, ils n'ont pas glorifié Dieu, alors ils se sont fait des idoles. Alors, c'est qu'on prend n'importe quoi qui peut être bon, mais on le fait plus important que Jésus. Et dans ce cas-là, nous devenons esclaves de ça. Et deuxième façon qu'on pourrait dire qu'on est esclave du péché, c'est que le péché produit en nous la mort. Chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et on peut dire que c'est un esclavage qui, ultimement, va nous amener à la mort. La seule question qui reste à savoir, c'est une question de temps. À 22 ans, à 5 ans ou à 79 ans, c'est une question de temps. Mais en même temps, si le péché nous rend esclaves de ces deux façons-là, la liberté va se manifester aussi de deux façons. Premièrement, c'est qu'elle va nous donner la sanctification. Elle va nous donner une victoire sur le péché qui produit ses désirs. Et deuxièmement, c'est qu'elle va nous donner une victoire définitive sur la mort. Et il va nous donner la vie éternelle. Et ça, on le voit réuni dans le même verset, par exemple, en 6, 22. « Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification. Et pour fin, la vie éternelle. » Et j'aimerais discuter ou m'attarder surtout à ce premier, nos désirs qui nous rendent esclaves. On porte du fruit, la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est de devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Et Dieu a choisi de le faire à travers un processus, un cheminement, ce qu'on appelle la croissance finalement. C'est que on n'est pas enlevé du jour au lendemain, mis sur une autre planète, et là on est tout parfait, wow, amen. Mais on va lutter. Il a choisi de le faire avec le temps. Mais en même temps, il nous dit qu'on est libre. Mais on est libre, mais on lutte. Putain, on s'est-tu fait avoir? Tu sais, c'est, si la liberté, c'est de lutter, sommes-nous libres finalement? Et en fait, j'aimerais vous dire qu'on est exactement en plein cœur de ce qu'on pourrait appeler le christianisme. Comment que le christianisme fonctionne? C'est de ça qu'on parle. C'est quoi la liberté? Et pour vous éclairer, j'aimerais, et là, il y a toute cette section que je les ai introduits à ce sujet de la liberté mercredi, mais je vais donner quelques détails de plus. Mais par l'histoire, je vous ai dit que le débat sur la liberté, ce n'est pas un débat qui provient de nous. Et je vous dirais que ça ne vient même pas de Martin Luther, le grand réformateur, ou de Jean Calvin, dans les années 1600-1700. Et je vous dirais que ça remonte encore avant ça. Qui connaît Saint-Augustin? Bien, pas personnellement. Là. Saint-Augustin. Augustin a vécu vers 354 à 430 et il a débattu fortement contre une personne qui s'appelle Pélagius et qui, lui, a vécu de 350 à 420. Et le cœur du débat qu'il y a eu dans des conciles à cette époque concernait une doctrine particulièrement, la doctrine du péché originel. Et plus particulièrement, les conséquences de la chute d'Adam. Est-ce que la volonté de l'homme est libre? Et ce qui a donné le départ aux hostilités, c'est que Pélagius a réagi à une prière d'Augustin. Et la prière disait ceci: accorde ce que tu commandes et commande ce que tu désires. Et pour Pélagius, c'était une horreur. Mais non, ça se peut pas. Parce que pour lui, l'idée de la grâce, c'est de faire ce que Dieu veut, oui, dans un sens. Mais si je suis responsable devant Dieu, je dois avoir la capacité d'obéir. Alors, le fait que Dieu est souverain, le fait que Dieu il dirige qu'est-ce qu'il veut, qu'il ordonne qu'est-ce qu'il veut, qu'il change les cœurs, pour lui, c'est complètement une horreur. Et ça a lancé les hostilités. Et ça a donné fruit à probablement le plus grand auteur qui a marqué le christianisme, et je dirais même la planète finalement, Augustin. Et Pélagius, pour lui, il nie complètement la doctrine du péché originel. Et ce qu'en fin de compte, il nous dit, c'est qu'on n'est pas mort, on n'est pas aveugle, on n'est pas esclave du péché, mais c'est que j'ai plutôt en moi-même la capacité de choisir. Et ce qui est bien et ce qui est mal, en fin de compte. Et évidemment, il y a des variantes de ça. Et aujourd'hui, beaucoup, et c'est là que le débat est dans les églises évangéliques, c'est qu'on n'est pas prêt à dire que le péché originel n'existe pas, mais c'est qu'on va adhérer à une forme diluée de ça qui nous dit, dans le fond, que oui, la grâce est nécessaire, mais elle n'est pas nécessairement efficace. Oui, ça prend la grâce, mais elle devient efficace quand que je choisis d'obéir, finalement. Et là, on commence à tordre. Et là, si vous voyez la question de la liberté, le péché, la grâce, il commence à avoir plusieurs concepts qui commencent à être liés là-dedans. Et donc, est-ce que la grâce est efficace? Est-ce que nous collaborons avec Dieu? Et toute doctrine humaniste qui rejette Dieu, découle de ceci. C'est le plus grand débat qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité sur ce sujet. Même dans l'Antiquité, ils ne s'astinaient même pas là-dessus, les philosophes grecs. C'est vraiment ici que les hostilités, c'est pratiquement le premier pilier dans la Bible, la création et la chute de l'homme. Et Augustin dit à cette doctrine de grâce qui est diluée, dit non, c'est pas comme ça, c'est que on est mort, nous sommes aveugles et nous sommes esclaves du péché, on vit dans les ténèbres, on aime tellement les ténèbres qu'il n'y a même pas la possibilité de réfléchir convenablement à propos de Dieu. Et pour Augustin, l'œuvre initiale de la grâce par laquelle l'Esprit nous libère du péché, c'est une grâce qui est efficace et qui est souveraine. Oui, on va coopérer avec Dieu. Après, qui ait fait premièrement l'œuvre de grâce de travailler dans notre cœur. Pas avant. Parce qu'avant, c'est une impossibilité. Augustin ne nie pas que l'homme est capable de faire des choix. Mais illustrons tout ça. Imaginons un espèce de... Comment on appelle ça, le truc en musique, là? Métronome, c'est ça. Imaginons un métronome. Pour Pélagius, lui, ce qu'il dit, c'est que d'un côté, il y a Satan, le mal, le péché, les ténèbres. Et de l'autre, il y a Dieu, le salut, la foi, la justice, la repentance et tout ça. Et l'homme, dans le fond, lui, il est ici et il se tient entre les deux et puis là, il regarde et puis là, il va faire des choix. Et puis là, il y a sa capacité à lui de se tenir en équilibre et d'aller d'un côté ou de l'autre. Le problème, c'est que dans la Bible, on ne voit pas ça. Et même qu'aujourd'hui, on ne connaît même pas ça, même dans le milieu pratiquement humaniste, scientifique. On ne connaît pas ça, une doctrine où on se tient comme ça, où qu'on n'est pas influencé par rien et qu'on peut choisir librement là, d'un côté ou de l'autre. Augustin, lui, c'est que on est complètement là. C'est ça l'esclavage. Nous sommes morts. Et à ce moment-là, ce qu'on a besoin, c'est d'une résurrection. On a besoin de la vie. Et l'Esprit va prendre cette personne et va l'amener. Mais il ne l'amènera pas comme délicatement et simplement en équilibre dans le but de choisir. Non, non. Quand Dieu ressuscite une personne, et c'est là le point de départ finalement, c'est qu'on est mort. Le point de départ, c'est pas qu'on est droit et qu'on est libre. Le point de départ, c'est qu'on est mort. Et Dieu vient et il ne l'amène pas comme ça. Il l'amène comme ça. C'est ça la liberté. La liberté, c'est que on regarde l'autre côté. Et je suis capable de voir que Jésus est désirable. Je suis capable de regarder l'autre côté. Je veux aller là. Et Dieu produit par son esprit cette résurrection. Il nous donne la vie et on s'en va de l'autre côté. Et là est la liberté. Parce qu'on est libéré de ça. La Bible est claire à ce sujet. 6, 17 et 18. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, donc il nous dit qu'on est complètement esclave du péché. On aime les ténèbres, on aime ça. On s'aime nous autres mêmes, on s'enorgueillit, on regarde ça. Là. D'ailleurs, les philosophes ils ont donné une image qui décrit très bien ce qui se produit. C'est qu'ils disent que, dans le fond, le commun du peuple est dans une caverne. Et ça, c'est l'image de Platon. Et puis là, on regarde dans le fond de la caverne et la lumière rentre et on voit des ombrages. Les philosophes, eux autres, sont dans la lumière, là, okay, qui nous disent, et nous autres, on est dans une caverne et on voit juste des ombrages. Ça, c'est le monde pour nous. Et le problème, c'est qu'on aime ces ombres-là. Et les philosophes ne sont pas différents de nous autres. C'est qu'ils aiment ces ombres-là, puis ils s'amusent à regarder les ténèbres, dans le fond. Ils ne veulent pas voir la lumière. Eux autres, ce qu'ils regardent, c'est le mur et les ténèbres qu'eux autres mêmes projettent par leur péché. Et on aime ça. Mais dans Jean, il nous dit qu'ils n'ont pas reçu la lumière parce qu'ils ont aimé les ténèbres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la lumière qui est venue dans le monde? Bien, on l'a tué. Et le point de départ, c'est exactement que nous sommes complètement et entièrement dans le péché. Mais suite à ça, il nous dit, après avoir été esclave comme ça, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de justice, pas en équilibre, statique comme ça, avec... Non, non, complètement l'autre côté. Et qu'est-ce que la liberté dans ce cas, selon la Bible? John Piper nous dit ceci. La liberté, c'est être tellement en amour avec Christ que tu fais exactement ce que tu veux en accord avec sa volonté. C'est faire ce que tu veux sans le regretter dans 100 ans. C'est voir et goûter Christ si intensément que tu te donnes lui-même à lui. Et plus on aime Christ, plus nous sommes libres. Plus on met notre foi en Christ, plus on est libre. Ce n'est pas une espèce de suspension. La logique, c'est celle-ci. Nous sommes justifiés par la foi seule. Mais quand on lutte contre le péché, c'est toujours un résultat et une évidence de la justification. Et Paul nous démontre aussi dans ses chapitres que quand on lutte contre le péché, c'est un effet et pas la cause de notre justification. Je suis justifié et ensuite j'ai cette capacité d'obéir parce que Dieu fait le travail en moi et non pas l'inverse. Je ne mets pas ma décision en Jésus-Christ. Non, la Bible dit que je n'ai même pas la capacité d'arriver là. Alors, je vais vous lire. Il manque une citation. Piper continue et dit, « La lutte pour faire un choix entre le bien et le mal, c'est que cette lutte est nécessaire et temporaire jusqu'au jour où le discernement et les plaisirs ne feront qu'un. Au ciel, il n'y aura plus de lutte. Il n'y aura plus. On va complètement désirer la justice. Plus de lutte. Ça va être fini. Et c'est exactement ce qu'on va être, complètement amoureux de Christ pour l'éternité. La grâce divine, finalement, nous sauve de nous-mêmes. L'Esprit de Dieu nous rend esclaves à nouveau, mais esclaves de lui-même, esclaves de Dieu. Et ce qu'il produit en nous, c'est la sainteté. Il veut nous rendre sensibles au péché. Autrement dit, c'est que le Saint-Esprit est l'agent par lequel on va lutter contre le péché. Avant d'être chrétien, là, j'avais beaucoup moins de culpabilité quand je péchais que quand je suis devenu chrétien. Pourquoi? Parce que l'Esprit en moi me rend sensible, me fait entrer dans ce combat contre le péché. Ce qu'avant, je n'avais pas. Et enfin, écoutez les termes de R.C. Sproul. Avez-vous remarqué le mot « Saint-Esprit » ? Écoutez ce qu'il dit sur ce terme. Le mot « Saint » dans son nom attire l'attention sur le point central de son œuvre dans le plan de Dieu de la rédemption. Le Saint-Esprit est le sanctificateur, celui qui applique l'œuvre de Christ à ma vie en œuvrant en nous pour nous rendre pleinement conformes à l'image de Christ. En tant que chrétien, on commence à désirer la sainteté par amour pour Jésus. Et par amour pour Jésus, je veux rechercher ça. Si ce n'est pas une entrave à ma liberté, c'est au contraire, parce que je suis devenu libre et que je suis tellement en amour, je veux être saint, parce que je veux être comme lui. Ce n'est pas moi-même, si vous me connaissez, trier avant d'être chrétien, j'étais vraiment pas saint. Et si je le suis aujourd'hui, et je lutte encore, évidemment, c'est pas par moi-même, c'est parce que Christ le fait en moi, et il m'attire à lui. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. L'esprit de servitude produit une chose, c'est la crainte. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Plusieurs pensent que la crainte ici, l'idée de la crainte, c'est qu'on craint, avant d'être chrétien, le jugement final. Et beaucoup de commentateurs pensent ça. Ce qui est probablement pas faux, évidemment. Mais dans le contexte ici, j'aimerais vous suggérer d'autres choses, et c'est ma réflexion. Je ne rejette pas la première, mais il y a une autre idée aussi qui me semble qui fait du sens dans ce passage, c'est que la crainte ici, c'est la crainte qui est produite par la sainteté. Trois raisons m'amènent à penser ceci. Premièrement, c'est que la façon que Paul décrit les non-chrétiens n'est pas nécessairement des personnes qui craignent la mort et qui craignent d'avoir un jugement après la mort. Par exemple, en Romains 3, 18, il nous dit, « La crainte de Dieu n'est pas devant eux. » Et là, il parle des inconvertis. « Ils n'ont pas connu le chemin de la paix, la destruction, le malheur et tout ça. » Et la crainte de Dieu n'est pas devant eux. Ils vivent justement comme si Dieu n'existait pas. Ils vivent dans la chair. Ils vivent dans le péché, ils vivent sans l'Esprit de Dieu. Deuxième raison, c'est que le péché nous rend esclaves de deux façons, comme on a vu tantôt. Et effectivement, le péché va nous mener à la mort et nous rend esclaves de nos désirs qui sont malsains, finalement. Et même les croyants expérimentent ces choses. Et ils savent qu'il y a des désirs qui sont mauvais. Et particulièrement, il y a un domaine qui étudie le fruit de ce qui est mauvais dans le péché. Lequel? Qui étudie le fruit de ce qui est mauvais dans le péché? Les résultats en nous là, de ce qui se produit. La psychologie. Que fait la psychologie? Elle traite la culpabilité, des problèmes mentaux, des problèmes de l'esprit finalement. Psyché, c'est esprit dans le grec, ça vient de là. Donc, c'est les troubles de l'esprit. Et si on admet que c'est un combat qui est intérieur, la psychologie étudie ces choses-là. Et si on rejette Dieu, elle l'étudie sans Dieu. Ma troisième raison, c'est que dans la parole de Dieu, quand que Dieu se manifeste, il y a une réaction bien précise. Quand Dieu se manifeste à une personne, et toujours et invariablement, il y a la même réaction. Laquelle? La crainte, la peur. On pense à Moïse, on pense à Isaïe, on pense à Pierre et les apôtres quand Jésus se manifestait. Et qu'est-ce qu'ils vivaient? Ils vivaient la sainteté de Dieu. Moïse, quand il est allé sur la montagne, qu'est-ce qu'il dit? Ils enlèvent ses souliers parce que tu entres sur une terre sainte. C'était du sable pareil comme ailleurs, mais c'est parce que Dieu était présent sur cette montagne. Et Adam, qu'est-ce qu'il a vécu? C'est un problème de la chute originelle qu'on discute ici, alors dans Genèse 3, chapitre 10. Il nous le dit. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » Il a eu peur. Et la culpabilité produite par la connaissance du bien et du mal, fait qu'on a honte, on se sent coupable. Ça produit la crainte quand que la sainteté est manifestée. Il y a un sociologue, Rudolf Otto, qui est un Allemand, qui a étudié à travers les différentes cultures l'idée de sainteté. Et Rudolf Otto disait qu'indépendamment de la culture, quand que la sainteté se manifeste chez une personne, ce qui est produit est l'équivalent de la xénophobie. La xénophobie avec un X, c'est la peur des étrangers. On est mal à l'aise face à la sainteté, indépendamment des cultures. Et son livre est encore publié aujourd'hui, et lui a écrit dans les années 50, 60, dans un petit livre justement sur l'étude de la sainteté à travers les cultures. Et on n'aime pas la culpabilité, on n'aime pas la honte, on n'aime pas le fruit de... du péché en nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on l'étudie, ça, et on veut amoindrir ça. Le problème, c'est qu'on a rejeté Dieu. Alors, notre psychologie, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je définis la psychologie comme ceci. Ma définition personnelle de la psychologie, c'est que c'est un système autosuffisant basé sur le soi qui tente de diriger l'esclavage culpabilisant ou inacceptable d'une personne vers une autre forme d'esclavage moins culpabilisante et acceptable, basée sur le soi. Tu as de la misère avec la pornographie? Regarde ailleurs, remonte ton estime de toi un peu, là, refais-toi une identité là, un petit peu, là, toujours centré sur toi évidemment, parce que Dieu n'existe pas. Alors, fais du sport, fais telle chose, fais telle autre chose, remplace ça par d'autres choses de moins culpabilisantes. Mais le sport peut être culpabilisant parce que je ne performe pas comme que j'aimerais performer. Et là, ça produit des ben alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben on a fait des psychologues sportifs parce que ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a de l'anxiété et de l'amertume et d'autres choses dans le sport? Ben on va remplacer ça par d'autres choses. Il faut que tu aies une vision créatrice. Alors, réfléchis positivement. C'est quoi ça? C'est un esclavage du moi, de ma propre personne vers... une autre forme d'esclavage moins culpabilisante. Mais la Bible, c'est pas ce qu'elle dit. Écoutez Paul Tripp Tim Lane dans son livre. Quand la sainteté de Dieu cesse d'être notre standard personnel de bonté, de vérité et de vertu, nous sommes toujours portés à nous établir nous-mêmes comme standard. Dieu n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis Dieu, je vais déterminer, je suis libre, je suis, c'est ça. Alors, on est tous des petits dieux qui se promènent partout, on est 7 milliards, et le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de justice dans le monde, c'est qu'il y en a trop, c'est juste que vous n'avez pas la mienne. Parce que c'est moi qui détermine. Alors, il y a des sociétés qui aiment leur prochain, il y en a d'autres qui les mangent. Qu'est-ce que vous aimez le mieux? Alors, que ce soit par crainte du jugement final ou encore par le fruit d'une sainteté qui est produite par l'Esprit de Dieu, ou qui est pas une crainte qui n'est pas produite finalement, l'Esprit de Dieu veut au contraire rendre désirable cette sainteté. Alors, voici mon deuxième point. L'Esprit de Dieu nous attire à lui. Donc, on a vu que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc, ce n'est pas un autre genre d'esprit, pareil comme le monde, qui nous laisse dans ses pensées, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Alors, côté négatif, l'esprit de servitude, côté positif, l'esprit d'adoption. Quand on est justifié par la foi, seul en Jésus-Christ, ce qui précède le verset qu'on observe aujourd'hui, il y a deux choses qui sont produites. La première, c'est que nous avons été adoptés. C'est ce que le texte nous dit. L'adoption, c'est une image, parmi d'autres, du fruit de notre salut. La justification, l'adoption, la rédemption, c'est toutes des images qui sont utilisées pour nous appliquer à nous. Mais l'adoption particulièrement est probablement l'image la plus intime que Paul va utiliser. Je dis Paul parce que c'est le seul qui utilise cette image. Et l'idée d'adoption revient dans 5 textes, pas plus. En 8:15 ici, en 8:23, en 9:4, en Éphésiens 1:5, et on le voit aussi dans Galates 4, verset 6. 5 textes dans le Nouveau Testament qui traitent de l'adoption. Mais particulièrement, nous cessons d'être ce que nous étions, c'est-à-dire esclaves du péché. La loi ne peut pas produire la vie. Mes comportements ne produisent pas la vie. La façon que je veux m'approcher de Dieu ne produit pas la vie. Qu'est-ce qui donne la vie? Dieu. C'est ça la distinction entre le christianisme puis la psychologie puis notre science moderne, c'est qu'on a un agent vivant qui produit des choses en nous. Je témoignais à Pâques. Je suis covoiture avec un ami pour aller au travail et puis c'était Pâques. Et pour moi, Pâques, c'est la fête probablement qui a le plus de sens dans ma vie. À chaque année, c'est quelque chose de spécial pour moi. Et je disais, je suis tellement content à Pâques. Il dit, comment ça? Il dit, pour moi, je pense que ça dépasse plus que Noël. Ben, Noël, il y a le party de famille, c'est plus grandiose un peu parce qu'on l'a fait plus grandiose. Mais pour moi, Pâques, c'est plus grandiose. Il dit, comment ça? Ben, parce que Jésus est ressuscité. Et c'est le fruit de mon témoignage. Je me suis converti parce que j'ai découvert qu'il y a tellement d'évidence qui démontre que Jésus est ressuscité. Alors, j'ai dit, si Jésus est ressuscité, j'ai dit, parce qu'il est vivant. Et s'il est vivant, c'est la plus grande validation et ma plus grande espérance que je ne suis pas en train de me tromper et que c'est réel ce qui se produit en moi. Alors, il s'est même médité, il a gardé silence pendant 5 minutes. Mais c'est ça, si Jésus est vivant, on n'est pas une autre forme de psychologie. Et que fait l'Esprit? Écoutez ça, l'Esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu crie « Abba, Père ». En fait, le texte ici dit « Nous crions ». Mais le problème, c'est que ce cri « Abba, Père » n'est pas dans beaucoup de textes dans le Nouveau Testament. Et il revient dans trois textes. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est dans Galates 4, verset 6. Alors, lisons Galates 4. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Alors, dans Galates, c'est l'Esprit du Fils qui crie, et dans Romains, c'est nous qui crions. Alors, comment comprendre ça? Contradiction? Écoutez ce que Martin Lloyd-Jones nous dit. Ce n'est pas que l'Esprit crie pour lui-même à Dieu comme Père, mais c'est la manière de l'apôtre de dire que l'Esprit en nous nous pousse à crier « Abba, Père ». Remarquez quelque chose. C'est le cri du Fils dans Galates. Quel cri du Fils? Jésus. Mais où est-ce qu'il a crié, lui? Un autre texte. Le seul autre texte. Pourquoi Paul a utilisé « Abba, Père » il a conservé l'araméen, et « Abba », et il a mis aussi le grec « Pater »,« Père ». Et pourquoi conserver l'araméen? Autre que la seule explication possible, c'est qu'il a conservé le cri du Fils, c'est-à-dire de Jésus, à genoux, dans le jardin de Gethsémané, dans Marc 14. Donc, c'est un cri qui était véhiculé, qui était connu, et Paul veut le conserver et il l'applique ici. Et le seul texte qui mentionne ce cri, c'est Marc 14, 34 et 33, il dit, « Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à être aussitôt saisi d'effroi. » 14:36, excusez. Ben, je peux continuer à lire aussi. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que je veux. » Il est là le cri du Fils. Il n'y a aucun autre cri ou allusion directe ou indirecte dans la Bible ou en dehors de la Bible que ce verset. Et Paul veut appliquer ce passage dans notre lutte contre le péché. Pourquoi? Parce que Jésus est le conduit qui permet à ses disciples d'employer le même langage. C'est le cri du Fils. Il met son esprit en nous. Il nous adopte. Donc, je n'étais pas dans la famille de Dieu, mais il me met dans sa famille et je peux donc m'approprier ce cri, m'approcher de Dieu, établir cette relation. Et quand je suis dans un combat, comme Jésus l'a été, il savait ce qui s'en venait, je peux crier à Dieu comme Père. Et le cri provient de cet esprit. Et j'attire votre attention sur un autre point, c'est sur le fait que l'esprit d'adoption est essentiellement une question de sentiment à l'égard de Dieu. Abba, c'est un enfant qui crie ça. Un papa ne disait pas ça, un adulte, on ne dit pas ça entre nous autres. Dans cette culture-là, c'est un cri d'enfant, c'est un cri relationnel, c'est un cri filial qui est établi entre le père et l'enfant. C'est les premières syllabes de n'importe quelle langue sur cette terre, ab, 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 abba. C'est ce qu'ils ont pris en araméen. C'est le cri d'un enfant qui regarde son père et qui l'appelle à lui. Et quelle est la relation entre... je me suis fait une liste, là, j'en ai sauté. Adoption, Saint-Esprit, péché, sentiment, passion, affection et toute cette lutte qu'il y a ensemble. Alors, le lien entre toutes ces choses, ça réside justement dans le fait que la lutte contre le péché est un combat qui s'effectue dans notre cœur. C'est nos affections qui sont impliquées là-dedans, c'est nos désirs, c'est nos passions qui nous emportent. Et Dieu met son esprit dans nos cœurs pour nous attirer à lui, parce qu'il est là, la lutte. L'esprit est fondamentalement centré sur lui-même, sur Dieu. Il nous attire à lui. Qu'est-ce que ça produit? De l'orgueil. Moi, je ne crois pas à la souveraineté de Dieu parce que ça crée de l'orgueil. Non. Piper donnait une image dans une des prédications qui n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de parler, mais l'image était bonne. Mais il dit, on va dans le Grand Canyon. Le Grand Canyon, c'est big, c'est gros, c'est géant, c'est beautiful, tu sais, comme qui. C'était les strates, c'est gros. On ne va pas là parce qu'on manque d'estime de soi. On n'arrive pas là, puis waouh, je me sens vraiment mieux en moi-même. Hein? Quand je suis dans le Grand Canyon, c'est gros. Hein? C'est... Non, on va là parce que ce qui est produit, c'est un émerveillement. Mais l'émerveillement provient du fait que je suis petit. Et c'est ça le point. C'est que plus que Christ grandit et que je l'aime et que je mets ma foi, plus qu'il est désirable et moins que moi je le suis. Et l'émerveillement dans le christianisme et la sainteté provient du fait que Jésus est tellement grand que je me sens petit et je veux qu'il prenne la place. Quelques applications. En fait, j'en ai juste une. C'est compliqué. Ça, j'ai pas mis de S. Paul, dans Romains, veut nous montrer à lutter contre le péché. Futurement, si j'ai un autre thème libre en quelque part à m'emmener, j'aimerais prendre le verset 13, parce que dans le verset 13, il nous montre comment lutter contre le péché, comment tuer le péché. Mais ici, c'est comme une section à part où ce qu'il nous dit, dans le fond, autre chose. Oui, on peut tuer le péché, il y a une stratégie qu'on peut avoir en tant que chrétien, mais ici, c'est Dieu qui le produit. Et comment lutter contre le péché? Êtes-vous découragé du péché? Je suis dans ce sujet-là parce que moi, ça m'écœure. Il y a des luttes que j'ai, puis en faisant ce sujet, j'étais comme, à un moment donné, cette semaine, là, j'étais là, puis là, à un moment donné, des pensées qui viennent, c'est une lutte dans notre cœur. Et puis à un moment donné, j'étais en train de donner libre cours à des pensées, puis il y a quelque chose qui m'est venu dans la tête, j'étais en train d'aimer plus l'objet que Christ. Ce qui m'amène à plus étudier revient. Et là, la lutte. Et comment lutter contre le péché? Alors, il y a plusieurs stratégies. La première, par exemple, c'est qu'on va dresser une espèce de liste vraiment néfaste du péché. Et là, on va culpabiliser les gens. Là. OK, hey, ça, c'est pas beau, t'es coupable. Comportement. Comportement? Alors là, on prêche l'Évangile. Tu fais plus ça, tu deviens saint, alors là, tu vas avoir la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on produit des légalistes? Une fois que j'ai tout fait ma série de comportements, alors là, je suis correct. Alors, deuxième stratégie, on n'adhère pas à celle-là. Le combat, c'est un combat dans nos pensées. Alors, nos désirs sont pas bons. Alors là, tous nos désirs sont pas bons. Alors là, on part. Et là, on dresse encore une liste des horreurs de nos pensées. Et puis là, on fait toute une argumentation. Alors, à la place de tirer sur le comportement, on dit dans le fond que notre esprit est mauvais, puis là, les désirs sont corrompus, puis là, ça n'a plus de bon sens. Et particulièrement, les désirs des plaisirs qui nous emportent. Comme si tous les désirs étaient méchants et culpabilisants. La faiblesse de cet argument vient de la force de l'argument pour le péché. Ce qui donne de la force au péché, c'est sa promesse de vie. C'est ça qui donne la puissance au péché, c'est la promesse qu'elle nous donne. Tu sais, si la promesse du péché, c'était « Hey, va dans la pornographie, le vol, le mensonge, ou l'alimentation excessive, ou faisant la liste, et là, va là-dedans, là, alors, c'est sûr, là, on va faire la liste de l'horreur, et puis là, les conséquences psychologiques, puis tu sais, on va... Non! La promesse du péché provient du fait que c'est beau et c'est le fun. Et la Bible nous dit que c'est la mort. C'est juste une question de temps. Alors, quelle méthode ou tactique pouvons-nous employer? Comment Paul argumente? Et voici une autre stratégie, une alternative à ces deux stratégies, tu sais, les comportements ou les désirs. Et là, on fait la lutte entre les deux. Alors, changeons de méthode un peu. Et en fait, c'est une méthode qu'on prend, c'est Jonathan Edwards qui a mis les plus beaux mots là-dessus. Et combattons, je vous lis. il disait pas aux jeunes dans un sermon qui appelait la jeunesse et les plaisirs de la piété, tu sais, dans les années 1700. Tu sais, c'est un problème moderne, ça, la piété et la sainteté, surtout chez nos jeunes. C'est arrivé en 2012, je pense. Ah non, dans les années 1700 aussi, Jonathan Edwards combattait ça. Et il a dit quelque chose. Il ne leur disait pas, au lieu du plaisir, cherchez Dieu, mais cherchez votre plaisir en Dieu. C'est bien dit. Et il ne souligne pas que la religion interdit les jouissances et les plaisirs. C'est pas ce qu'il fait, c'est l'abus qu'on en fait. Alors voici sa méthode. Il disait, ainsi, nous combattrons avec leurs propres armes. Promesse pour promesse, plaisir pour plaisir. C'est ça ta promesse avec tes choses avec lesquelles tu luttes? Moi, j'ai une promesse encore plus grande, Christ lui-même, l'Évangile. Et mon application, c'est celle-ci. Combattre en recherchant des plaisirs plus élevés. Le pouvoir réside dans ces promesses qui nous trompent. Et Jésus dit quoi à ça? Est-ce que je suis libre? Voici la réponse de Jésus. Vous n'êtes pas libre sans moi. Je rends libre. Vous connaîtrez la vérité, et plus tard il nous dit, je suis la vérité, alors vous me connaîtrez, et cette vérité va vous affranchir. Et c'est que préalablement, on était esclaves. C'est qu'il faut qu'il nous affranchisse. Logique simple, on est esclaves, il nous affranchit. Alors, on connaît Christ. Tu es entraîné dans tes désirs qui te rendent esclave. Moi, je rends libre, car je te libère de ces péchés. Je les ai portés pour toi. J'ai déjà dit cette image, je la reprends, je conclue avec ça. Promesse pour promesse. Il y a un conférencier qui va dans une université non chrétienne qui parle, et le sujet, c'est les bienfaits de s'abstenir avant le mariage. Tout le monde connaît mon image? C'est quoi les bienfaits? C'est pas une université chrétienne. Et sans même mentionner la Bible, il amène une série d'arguments où ce qui nous montre que c'est bon de s'abstenir des relations sexuelles avant le mariage. Et là, il faut dire que la salle n'est pas vraiment pour lui. Et suite à la conférence, il y a un jeune homme qui vient et qui lui dit, vois-tu, je veux vraiment te lever mon chapeau pour le courage que tu as eu parce qu'il fallait en avoir. Et néanmoins, je veux te dire que je ne suis pas du tout, mais du tout d'accord avec ce que tu dis. Parce que toi, dans le fond, tu te dis libre, mais en fait, tu t'abstiens, tu te contrains, t'es pogné, tu te constipes. Il y a une liste de qualificatifs qu'on pourrait donner, là. Mais moi, je suis libre. Moi, je couche avec toutes les filles que je veux. Moi, je n'ai pas de limite. Moi, je vais avec. J'ai le goût d'être avec elle, mais je vais avec elle. J'ai le goût de prendre la drogue, je vais prendre la drogue. J'ai le goût d'aller sur le site pornographique, je vais sur le site pornographique. J'ai le goût de manger de la gourmandise à pu n'en finir, puis après ça, aller me faire vomir. J'ai pas de trouble avec ça. C'est ce que je vais faire. J'ai le goût d'aller voler. Je peux le faire. Bon, ils vont me briser un peu ma liberté, mais ma liberté est intellectuelle. De toute façon. J'ai le droit. Toi, tu t'es pogné. Alors, le prédicateur, j'espère, avec beaucoup de sagesse, lui a répondu. Écoute, la vraie question, c'est pas de savoir combien de femmes tu peux coucher. N'importe quel imbécile peut faire ça. La vraie question, c'est est-ce que tu es capable d'arrêter? Parce que si tu n'es pas capable d'arrêter, ce que tu appelles l'esclavage, la liberté est en réalité de l'esclavage. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Facebook, Twitter et tous les autres trucs comme ça, c'est un problème. Là, c'est on est rendu avec la oui. On est rendu avec le... Tu sais, c'est une drogue chez des adolescents. Ça en est une peur. Il me semble que je rencontre du monde dans ma famille. Là, je suis comme, es-tu capable de penser à d'autres choses? Les enfants ne veulent plus jouer dehors. On a des troubles de comportement. Je vous le dis, c'est effrayant. Il y a une classe de secondaire 4 qui est venue à l'école de police où j'enseigne. Puis, et ils faisaient une visite guidée. Il y avait l'air d'une gang de rats qui sortaient pour la première fois. Je veux dire, c'est incroyable. Là, on sortait dehors, t'es tout bleu. Tu sais. C'est quoi ça? C'est pas la liberté, ça. Si vous n'êtes pas capable d'arrêter ces choses, c'est en réalité de l'esclavage. Et ce qui me rend libre de dire non à ce qui me rend esclave, c'est parce que Christ m'attire à lui. Et que je deviens tellement en amour. Et il est là le combat. Remplaçons ces choses par Christ. Tombons en amour avec Jésus-Christ. Tendons vers Christ, vers la sainteté. Et ça va faciliter notre combat dans la lutte contre le péché. On va prier. Mon Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est vivante, efficace, juste, vraie, sainte. Tu nous dis dans ta parole que ta parole sanctifie. C'est par elle que tu travailles. Tu l'appliques dans nos cœurs, Seigneur. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'on ne sorte pas d'ici avec des doutes. Parce que dans le même chapitre, tu nous dis qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en toi. Mais encore, on lutte contre le péché, Seigneur. Et aide-nous dans cette lutte, aide-nous dans ce combat, Seigneur. Attire-nous à toi. Qu'on ne fasse pas juste remplacer l'alcool par le sport, ou qu'on ne fasse pas juste remplacer le sport par l'alimentation, ou toutes les façons qu'on peut. Non, c'est... On veut remplacer par quelque chose qui est éternel, puis c'est toi, Seigneur. Grandis dans nos cœurs afin qu'on puisse mourir à nous-mêmes, afin que tu puisses vraiment prendre plus de place. Prends nos cœurs, Seigneur. Crée en nous un cœur de foi. Un cœur qui met ta foi, la confiance en toi. Un cœur de repentance. C'est en ton nom qu'on veut te prier pour ces choses, Père. Amen.